je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour. La mort est devenue un état permanent. Le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Vive la mort. Vive la mort. Vive la mort. Vive la mort.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sûr Radio Libertaire, bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire. Nous sommes le lundi 31 août 2026 et donc nous allons vous présenter le Monde Libertaire numéro 1886. Le Monde Libertaire, le journal sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Nous sommes le lundi 31 août 2026. Donc un Tour du Monde Libertaire de retour, après cette période de vacances estivales, mais aussi après différentes raisons qui nous ont empêché de vous présenter votre mensuel favori depuis plusieurs mois maintenant. Le calendrier qui nous a mobilisés pour le congrès annuel de la Fédération Anarchiste, et puis ces désastreuses canicules responsables de tout ce qui va mal et qui ont mis à mal, justement, les précieuses boxes qui nous permettent de communiquer all over the world. Des boxes en surchauffe qui ont donné des sueurs froides à nos amis du comité de rédaction du Monde Libertaire, les obligeant à en retarder un peu la publication au début du mois de juillet. Mais voilà, tout est en ordre, la pluie est de retour, les boxes sont à la bonne température et le Monde Libertaire est de retour dans vos boîtes aux lettres et dans vos librairies favorites et tout particulièrement la librairie Publico qui se trouve, comme chacun sait, au 145 de la rue Amelot à Paris dans le 11e arrondissement. C'est donc parti pour découvrir en votre compagnie ce numéro 1886 du Monde Libertaire. Il est titré Espagne 36 et c'est bien sûr en hommage au 90e anniversaire de la Révolution espagnole de 1936 dont il sera largement question dans ce numéro puisque c'est l'objet du dossier spécial que nous ont concocté nos petits camarades du Monde Libertaire. Le Monde Libertaire, je l'ai dit, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, mais vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner. C'est le plus sûr moyen de le soutenir. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Si vous tenez un ancien numéro entre vos mains, pourquoi pas ? Il vous suffit de remplir le formulaire d'abonnement que vous trouverez à la fin du journal. Mais comme nous sommes à la pointe de la modernité, vous pouvez aussi vous abonner en vous rendant sur le site du Monde Libertaire, puisque le Monde Libertaire a un site à partir duquel il ne vous sera pas difficile de vous abonner. Le Monde Libertaire en ligne, ce n'est pas que la reprise de certains numéros ou articles du Monde Libertaire. Vous y trouverez bien d'autres textes et informations au plus près de l'actualité. Par exemple, les émissions à venir sur Radio Libertaire. Et puis, toujours publicité en quelque sorte, ou information, nous tenons à vous rappeler la grande opération promotionnelle toujours en cours, à savoir que pour tout nouvel abonnement, vous avez droit à un livre à choisir parmi les dernières publications des éditions du Monde Libertaire. Je vous rappelle que c'est également valable pour la souscription de tout nouveau bon de soutien à Radio Libertaire. Pour cela, rendez-vous sur le site de Radio Libertaire ou encore à la fin du Monde Libertaire où tout cela est expliqué. Avant d'aller plus loin, un grand bravo à l'équipe qui travaille chaque mois d'arrache-pied à la réalisation de votre mensuel favori. Rédaction, collecte des articles et des illustrations, mise en page, toujours magnifique, envoi chez l'éditeur. Donc un travail militant autogéré et comme toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans IA. N'est-ce pas Monique ? Et donc avec moi, puisque une émission, ça ne se fait jamais tout seul. Donc Monique, toujours derrière le pupitre, derrière la vitre. Et puis à mes côtés, Serge, comme maintenant régulièrement dans le Tour du Monde Libertaire. Et puis aujourd'hui, pour nous accompagner, Ramon, qui a contribué à ce numéro, au dossier Espagne 36. Bonjour à tous. On se retrouve après une petite pause musicale pour étudier tout ça.
Les enfants, où allons-nous ? Droit devant jusqu'au cou. On y va dur comme fer, sans jamais s'arrêter, sans regarder en arrière jusqu'où allons-nous tomber. La vie est devenue folle. Elle a décroché le pactole. Dans quel sens va le vent ? Il faut tout arrêter, prendre les devants avant de tout faire sauter. Qu'est donc devenue la vie ? Où sont donc ses amis ? Droit devant, il y a la mer et les petits poissons. Je la boirais bien entière s'il le fallait dans le fond. La vie est étrange, je ne vois pas ce que ça change. Et toi là-bas, où vas-tu ? Emmène-moi avec toi. Pourquoi donc ce raffut ? Ce ne sera pas pour cette fois. La vie est là, quelque part par là. Enfant, tu rêvais d'un monde meilleur. Enfant, tu cherchais le cœur du bonheur. Mais la vie est devenue folle. Elle t'a donné des heures de colle. Le monde tourne et chavire. Et maintenant, il prend l'eau. Faut-il qu'on se tire avant qu'il n'ait le dernier mot ? Et l'ami, prends ma main. Il y aura d'autres lendemains. Les enfants, où allez-vous ? Dans quel sens va le vent ? On ira jusqu'au bout.
Pascal Loquin, ce n'est Planète. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans IA de la Fédération anarchiste.
Et donc, pour vous présenter ce numéro 1886 du Monde Libertaire consacré à l'Espagne 1936, donc comme je vous l'ai dit, avec Serge et Ramon en studio, Monique derrière le pupitre. Donc peut-être pour vous dire deux mots de la couverture de ce Monde Libertaire. C'est un dessin du camarade Jacques Tardy. Merci à lui. C'est un dessin qui a été initialement réalisé pour la couverture de Ni l'arbre ni la pierre de Daniel Pinoz, qui avait été publié en 2001 à l'atelier de création libertaire. Et donc merci à Jacques Tardy pour ce dessin et pour son soutien constant, et un salut aussi au camarade Daniel. Ensuite, je vais vous lire tout simplement l'éditorial du comité de rédaction du Monde Libertaire. Ce mois-ci, c'est Francis qui s'est mis à l'ouvrage. Qu'est-ce que nous dit Francis au nom du comité de rédaction ? Francis nous dit « ça chauffe à tous les étages ».
Ah bon ?
Étonnant, non ?
Oui.
Alors voilà ce qu'il dit, ça chauffe à tous les étages. En trois mois, quelle succession d'épreuves supportées par la population ? Les canicules en rafale et les incendies catastrophiques révèlent les économies réalisées sur l'achat de canadaires et de matériel de protection pour les pompiers. Leur santé est en danger, tout comme celle des habitants, et ce n'est pas fini. Un gouvernement qui, malgré la sécheresse, accepte les exigences de la FNSEA, toujours plus productiviste, privatisant et détournant l'eau vers les méga-bassines. Aucune remise en cause du système. Face aux revendications des syndicats de policiers, il approuve la proposition de loi relative à la présomption de légitime défense. Durcissement de la répression, laxisme face aux exigences des corporations réactionnaires, aveuglement devant les évolutions du climat, on ne change rien. Le cynisme des responsables politiques actuels reporte au-delà des élections les décisions à prendre. L'eau devient plus rare, les décès sont en hausse, les logements se transforment en bouilloires, des élèves et des enseignants étouffent dans des locaux inadaptés, des salariés sont confrontés aux pics de chaleur. On verra plus tard. Ils s'en moquent, car ils ne seront plus en poste en mai-juin 2027. Et si la population proteste, on enverra les forces de l'ordre suréquipées. Leur objectif de rentrée, les manœuvres pour les sénatoriales. Or, aujourd'hui, la question la plus importante devient celle de la capacité de nos sociétés à préserver les conditions biologiques, hydriques et climatiques. Le Monde Libertaire, au fil de ses numéros, a relayé les questions évoquées et le communiqué de la Fédération anarchiste intégré dans ce numéro nomme les responsables. Et c'est donc signé par Francis Pion pour le comité de rédaction du Monde Libertaire. Et donc, eh bien, ce communiqué de la Fédération anarchiste, eh bien, je vais vous le lire dans la foulée puisqu'il suit dans le numéro du mois de septembre. Alors, lecture du communiqué de la Fédération anarchiste. La canicule est politique, notre réponse doit l'être aussi. La multiplication des canicules ne relève pas seulement d'un problème climatique, c'est un fait politique total. Le capitalisme nous plonge dans le brasier en sacrifiant nos vies sur l'autel du profit. La canicule, un révélateur des inégalités. Ceux qui tentent de réduire ce désastre à un phénomène naturel ou à des comportements individuels se rendent complices d'une violence inouïe. Cette position politique vise à dédouaner les vrais responsables, le capitalisme, les grandes entreprises et les États qui les protègent. La canicule frappe avec une violence ciblée les plus vulnérables et les plus isolés, les travailleurs et les travailleuses exposés, les personnes sans domicile et les mal logés, les quartiers populaires, etc. Ce ne sont pas les riches qui souffrent, mais tous les autres, considérés comme une marchandise par le grand marché capitaliste. Relativiser le réchauffement climatique, c'est protéger les profiteurs. Le capitalisme nous condamne aux flammes. La canicule tue et pendant ce temps, les dirigeants politiques et les détenteurs du pouvoir refusent de prendre les décisions qui s'imposent pour stopper cette fuite en avant. Peut-être bien parce qu'ils participent eux-mêmes au problème. Croire que nous sortirons des flammes en entrant dans l'isoloir relève de l'aveuglement. L'origine de ce brasier est connue, c'est la conséquence directe du productivisme, de l'extractivisme et du capitalisme sous toutes ses formes. C'est le fruit d'activités humaines menées avec la complicité des puissants qui protègent leurs intérêts. Leur credo, produire et faire consommer jusqu'à l'épuisement du vivant. Ce credo jette au brasier la faune dont nous faisons partie et la flore dont nous dépendons. Le capitalisme pille tout, l'eau, la terre, les forêts et jusqu'à l'air lui-même. Notre réponse doit donc être à la hauteur de l'attaque, expropriation capitaliste et changement radical de la manière de produire. Abat le capital, abat les donneurs d'ordre, abat tous les pouvoirs d'où qu'ils viennent. N'attendons rien du marché, de l'État ou des patrons. Seule une prise de conscience collective avec l'instauration d'un vrai rapport de force contre ce système mortifère pourra sauver ce qui peut encore l'être. L'entraide, la solidarité et le refus systématique de nous plier aux logiques libérales revêtent aujourd'hui un caractère existentiel. L'avenir sera déterminé par notre capacité à nous organiser pour nous défendre contre la prédation d'une poignée d'exploiteurs. Tout viendra de nous, pour l'autogestion, pour la justice sociale et pour l'émancipation intégrale. La Fédération anarchiste d'expression francophone, le 15/07/2026. Toujours dans les premières pages de ce numéro du Monde Libertaire, vous verrez que le comité de réaction du Monde Libertaire souhaite, si vous en avez envie, hein, recevoir vos avis et vos commentaires sur ce qui est publié dans le Monde Libertaire. Et puis voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres rubriques, d'autres informations, il y a un petit encart pour pouvoir procéder à ça. Et puis aussi une petite mention d'un mandat qui a été adopté au dernier congrès de la Fédération anarchiste. Mais nos amis du monde, du côté direction du Monde Libertaire ont fait une petite erreur dans la citation. Je sais qu'elle est involontaire, donc je vais à l'antenne la rectifier à leur nom. Donc à l'occasion du dernier congrès de la Fédération anarchiste, plusieurs mandats ont été adoptés pour prémunir les différentes œuvres de l'organisation contre l'usage de l'intelligence artificielle générative. En conséquence, notre journal Le Monde Libertaire s'engage à s'abstenir de faire usage, et là c'est une citation, s'abstenir de faire usage, dans la mesure du possible, de façon directe et en connaissance de cause, de médias visuels. Et là, ils ont oublié de mettre textuel. Et donc, dans le mandat, il est bien dit que ce sera aussi textuel. Ce n'est pas que les visuels qui sont concernés, donc de médias visuels ou textuels réalisés ou modifiés par intelligence artificielle générative, à l'exception faite des cas de figure particuliers où le dit média serait employé afin d'illustrer un propos critique sur le sujet. Voilà donc pour ces premières pages du Monde Libertaire. Une petite pause et on se retrouve très vite.
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendantes fringuées chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeau, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient. Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri. Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Michel Buller, années 30. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc nous vous présentons dans ce Tour du Monde Libertaire le numéro de septembre. Il sera bientôt à la librairie Publico, s'il n'y est pas déjà, et dans vos boîtes aux lettres quand le facteur vous l'aura amené. Donc, première séquence, c'est celle des hommages, pour rendre hommage à plusieurs compagnons ou compagnons de lutte disparus. Donc, tout d'abord Thierry Poré, et puis aussi Raoul Van Eghem. Donc Thierry, je sais que toi Serge, tu l'as bien connu, donc je crois que tu voulais en dire quelques mots.
Oui, je vais juste dire quelques mots, effectivement. Moi, je l'ai connu depuis les années 70, je dirais un peu plus tard là, dans quelles circonstances. Et donc, il a été très longtemps en région parisienne, Yoc Ramon qui est avec nous, bien sûr, l'a très bien connu aussi. Je vais commencer par... Enfin, il y a plusieurs textes. Donc je vais pas les reprendre séparément chacun, mais j'ai tiré de chacun une des choses un peu synthétiques. Et le cercle libertaire Jean Barouet, donc qui est à Bordeaux, puisqu'il est à Bordeaux à partir de sa retraite, enfin 2 ans après sa retraite, et évidemment Il travaillait avec, avec les libertaires là-bas. Et bon, voilà, donc, dit, nous avons le blues, car Thierry nous a quittés ce 30 juin, donc dernier. Et donc, il avait 79 ans, en gros, si je me souviens bien. Deuxième chose, je vais reprendre le groupe Salgorsegui, qui est le représentant en face de moi, a aussi écrit un hommage. Et j'ai extrait une phrase, une vie dédiée au militantisme anarchiste syndical et au blues. Voilà. Et puis, avant de prendre quelques exemples pour expliquer un peu tous ces engagements, bon, j'ai retiré des trois, il y a aussi Floréal, enfin des trois, je crois que c'est trois hein, qui en a contribution, comment ils les ressentaient, ceux qui ont écrit les articles. Donc, par exemple, j'ai noté bienveillance, générosité, humour. Et pour une autre contribution, fraternel, bon vivant, amitié chaleureuse. Et je pense que ça traduit vraiment quelque chose de réel. Enfin, je ne sais pas, Ramon, toi qui l'as connu, je pense que ça correspond bien à ce qui dégageait, quoi.
Oui, absolument, oui.
Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, je vais quand même parler de son, très rapidement de son engagement au niveau des ondes anarchie, des ondes libertaires, qui date de longtemps, puisque dès les débuts pratiquement de Radio Libertaire, il a participé aux chroniques syndicales. Et puis, évidemment, je pense que pour les auditeurs un peu anciens, Blues en liberté, quoi. C'est avec sa voix, enfin, je sais pas, il a une voix de jazz, je sais pas s'il est né comme ça, mais c'était extraordinaire, quoi. Il avait des connaissances en blues, bon. Et après sa retraite, il a continué à Bordeaux avec sa compagne Fabienne. L'émission s'appelle Bordeaux Blues. Voilà. Bon, j'avais noté qu'il a 3000 vinyles quand même hein, sur le sujet.
Une belle collection.
Voilà. Et puis aussi, il participe à une autre émission à Bordeaux qui s'appelle Achaïra, qu'on connaît assez bien, puisqu'il y a un certain nombre de compagnons anarchistes de la région qui font cette émission mensuelle. Et donc, il a continué, disons, là-bas, à participer à ça. Voilà, je ne développe pas plus sur l'aspect sur l'organisation dans la radio, mais enfin, je pense que ceux qui ont suivi Blues en liberté, ils s'en souviennent encore. L'engagement dans les diverses luttes, pareil, je le résume très rapidement, il a beaucoup milité au syndicat des correcteurs CGT, où on retrouvait notamment des compagnons comme Jacky Toublé, René Berti, etc., qui était un syndicat sur lequel on s'est appuyé pas mal, parce qu'il avait accès à la Bourse du Travail, et il faisait des choses très intéressantes. Voilà. Et évidemment, moi, quand je l'ai rencontré, c'est à l'Alliance syndicaliste qui s'est créée dans la lancée de post-68ard. L'idée étant de coordonner des militants anarcho-syndicalistes qui pouvaient être dans divers syndicats, voire des trucs autonomes. Il existait un peu à ce moment-là. Voilà, donc on a fait pas mal de choses collectivement. Après, il s'est retrouvé au groupe Pierre Bénard de la Fédération anarchiste, comme une partie de... Quand l'Alliance s'est arrêtée, une partie s'est... investi dans le groupe Pierre Bénard. Et après, il est arrivé au groupe, ça a saigné. Voilà. C'est au moment où il est parti à Bordeaux ou comment ça
non, 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 non.
Avant,
non.
C'était à un moment.
Oui, bien avant, quand il habitait toujours Paris.
Ah, voilà, d'accord. Et il est resté adhérent du groupe après, quand il est parti à Bordeaux.
Et quand il est parti à Bordeaux, ça m'embêtait bien, moi. C'est un bon militant. Je vais à Bordeaux. Je sais qu'il y a des copains libertaires à Bordeaux. Mais je veux rester adhérent au groupe Segui et payer ses cotises régulièrement. Il envoyait de temps en temps des contributions pour le monde libertaire. Et allez, je vais dire à la louche, ou plus tard, un jour sur trois, il me téléphonait tout le temps.
Ah ouais, moi aussi, il m'appelait régulièrement.
Toujours avec... se présentant de la manière les plus farfelues, des fois, la tour de contrôle.
L'humour, j'avais noté l'humour.
Et oui, Thierry, c'est pareil, je l'avais connu, je crois que je l'ai connu en 72.
Ouais, c'est ça, le même temps que moi.
Par le biais du groupe Louise Michel et de l'Alliance syndicaliste. J'ai jamais été membre de l'Alliance syndicaliste, mais je militais avec eux. Oui. Parce que dans mon Bon, à l'époque, je travaillais dans les assurances. Et dans le 8e, 9e arrondissement de Paris, il y avait une flopée de copains libertaires dans les assurances, dans les banques, dans les grands magasins. Et on s'occupait, et plus que s'occuper, on avait bien en main l'union locale.
8e, 9e.
8e, 9e.
Il y avait la queue, des fois, il y avait du monde qui venait. Oui, c'était pas une union locale.
Non, c'était pas une union locale en sommeil.
Et est-ce que tu sais, on va terminer là-dessus, est-ce que tu sais, tu te rappelles pourquoi elle a été dissoute
Je m'en souviens.
J'ai
bien. Parce que c'était l'époque où la CFDT, on était à la CFDT, la CFDT autogestionnaire, entre guillemets. Et donc, comme il y avait, je ne sais plus quelle campagne électorale qui se profilait, et Edmond Maire, le secrétaire général, enfin la direction de la CFDT, avait trouvé un nouveau concept. Habituellement, c'était la neutralité syndicale par rapport aux politiques. Et là, ils avaient trouvé un nouveau concept. C'était, j'ai plus le terme, il y avait deux mots. Pas l'abstention, mais engagé.
Oui, c'est-à-dire qu'il voulait dire qu'il faisait semblant de ne pas soutenir, mais il soutenait quand même quelqu'un.
C'est-à-dire, j'appelais carrément à voter pour le PS. Voilà. Et là, on avait eu cette idée géniale, entre guillemets encore.
Oui, elle était géniale. J'étais pas dans le coup, mais je trouvais génial.
On avait fait appel à René Berthier. Ouais. C'est lui qui nous avait dessiné l'affiche. Où on voyait, c'était un ouvrier, la caricature d'ouvrier, qui portait sur ses épaules un patron en haute forme et cigare au bec. Et on avait mis comme slogan « Travailleur, comme ton patron... »«
Fais comme ton patron, adhère au PS. » »«
Adhère au PS. » Et on avait signé CFDT. C'est ça qui a coincé. Et donc, ça provoquer un petit raffut en région parisienne.
En plus, vous aviez collé et tout. Hein.
Ah oui, oui, ah ben, si, parce qu'on collait. Hein. Ah oui, on l'avait bien collé. Et ils se sont demandés, pas longtemps, ils avaient des doutes, ils se sont dit, qui sont les petits malins qui ont fait ces blagues-là. Et ils avaient un double déclic, ils sont allés à l'union locale, et erreur de notre part, c'était les affiches en sérigraphie.
Oui, je m'en rappelle.
Et les premiers exemplaires n'étaient pas très bons.
Donc
on les mettait à la poubelle. Et elles étaient restées dans la poubelle.
La preuve était là.
Et donc, dissolution.
Pris comme des bleus.
Ils ont changé les serrures, dissolution de l'union locale.
Élégant.
Tout ça pour un dessin, franchement. Il était bien, ce dessin.
Ah, c'est super, je l'ai. Hein.
Ah, j'ai retrouvé. C'était l'autonomie engagée.
Ah,
c'était ça, le concept.
Oui, juste deux mots, j'ai pratiquement fini, mais c'est quand même important. Bon, je rappelle qu'il était quand même objecteur de conscience. Bon, c'est pas le seul, mais enfin, il y en a beaucoup d'anarchistes qui ont été. Et d'autre part aussi, parce que là, on a fait beaucoup de travail là-dessus, au comité Saint-Milivan, qui avait été créé en lien entre l'Alliance syndicaliste et Frente Libertario. Pour ceux qui ont l'habitude de lire un peu ce que fait Freddy Gomez en contre-temps, mais il n'y avait pas que Freddy, mais il y avait également Freddy. Et il y a eu tout un tas de choses qui ont été organisées assez concrètes. Encore un mot, tiens, c'est pseudo dans le ML, parce que si les gens ont envie de voir des articles, il y a écrit beaucoup d'articles dans le ML, alors j'ai noté Jean-Pierre Germain, qui est le plus connu à mon avis, Sitting Bull aussi, Alexis Pierre et Loulou Barbesol. Voilà. Je terminerai là-dessus.
En tout cas, ce dernier comment dire, surnom, et puis aussi l'anecdote que racontait Ramon, donne aussi l'esprit de comment dire, très anard et de lutte contre l'esprit de sérieux.
Mais si tu veux, qu'on va retrouver un peu plus loin. Ça décrit bien Thierry et d'autres, mais ça décrit aussi une époque. Hein. Mmh.
Et je trouve que ça fait un petit peu le lien aussi avec Raoul Van Eghem, qui vient de disparaître aussi et qui, lui aussi, un peu arrivé dans la mouvance situationniste.
Alors, je ne sais pas si on met
on mettra à la fin. On mettra à la fin.
À la fin, d'accord. Des petites choses. Vous allez voir pourquoi à la fin de cette petite séquence, j'ai appelé ça « La vie s'écoule, la vie s'enfuit ». D'ailleurs, je crois que c'est le titre de l'article en plus. Raoul Van Eghem, il est décédé encore plus récemment, enfin c'est la même période, mais le 28 juillet, mm-hmm. et il était quand même encore plus vieux, puisqu'il avait 92 ans. Et dans l'article, j'ai fait un peu rapidement son itinéraire, et puis j'ai mis en annexe un certain nombre de textes, mm-hmm. et il y avait des textes 2021, 2022, qui sont très, très...
Bien sûr.
Enfin, il a gardé l'esprit vif, quoi, jusqu'au... Et je vais juste citer en fait quelques extraits comme ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, il faut quand même me dire qu'il faisait partie de l'international situationniste, qu'il en est en partie de 61, si je me souviens bien. Mmh. Il en est sorti en 1970. Et bon, je ne vais pas développer cet international situationniste, mais c'était celui qui était le plus proche des anards. D'ailleurs, il s'est revendiqué l'anarchiste parfois, un certain nombre de textes. Voilà. Et il a été connu, évidemment, à l'époque, par des gens plutôt jeunes comme moi, en 1967, juste avant qu'arrive 68, par le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, voilà, qui montrait les mécanismes de domination. Je pense que ça dit quelque chose à certains.
On avait tout ça.
On peut encore le lire aujourd'hui, d'ailleurs.
On avait tout ça sur notre table de chevet.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces engagements ? Il s'est déclaré allergique aux idéologies marxistes et trotskistes, ce qui est tant proche de l'anarchisme, on comprend aussi. Et en plus, il a été, c'est peut-être dans cette logique-là, en mai 68, il a été très critique vis-à-vis des mouvements gauchistes. Mm-hmm. Parce qu'on a vu arriver tout un tas de gauchistes qui allaient guider le peuple qui bougeait, et voilà. Une dernière chose, enfin il y a plein de choses dans son itinéraire, mais une dernière chose avant de lire deux, trois extraits de ces textes, il a travaillé, il était copain de ciné, il a été à Ciné Mensuel, mm-hmm. voilà. Qu'est-ce que je peux citer ?
Extrait, moi j'en ai un si tu veux. J'ai un extrait
que tu as
sélectionné.
Voilà,
il y a des chances, mais qui va bien dans ce numéro consacré à Espagne 36.
Ah, oui.
Il dit « Souvenons-nous que ce qui a détruit et interrompu l'expérience des collectivités libertaires de la Révolution espagnole, c'est l'imposture communiste. »
Je l'avais écrit en gras.
J'imagine que tu l'avais.
Oui, non, il y a un truc qui m'a assez touché parce que j'ai bien connu Marc Thamsin, puisqu'on avait fait, entre autres choses, une émission quand on a démarré l'émission Terre et Liberté, qui est devenue Trou Noir par la suite, s'est élargie. On l'a démarré avec Marc Thamsin, qui a fait beaucoup de choses et qui est décédé, lui, en juin 21. Et Marc Thamsin était en Grèce dans cette période. Et je sais que Raoul Van Eghem est allé là-bas, séjourné, était très intéressé par ce qui se passait à Exarchia, etc. Et donc, quand il est décédé, j'extrais deux phrases de ce qu'a dit, c'est-à-dire Raoul Van Eghem. Au pluriel, un légataire au pluriel, insurgé et des insurgés du passé, nous jetons les bases, dis-nous donc, mais il sentait que c'était un compagnon, quoi, très proche, nous jetons les bases d'une véritable internationale du genre humain. Choisir le parti pris de la vie est désormais le seul recours entre ceux qui sèment la mort sur la terre entière. Y compris, c'est vraiment d'actualité. Qu'est-ce que je citais ? Oui, il y a tout un texte qui montre un peu bien ses opinions. Sachant que pour ceux qui veulent lire, c'est vraiment ses positions politiques claires. En 1974, il a sorti La Grèce sauvage à l'autogestion généralisée. Une citation de mai 2021 qui est récente. Le peuple prenant par lui-même les décisions qui le concernent s'inscrit dans la lignée de l'expérience autogestionnaire menée par la collectivité libertaire espagnole de 1936. J'ai mis en gras, ici, on va en parler. Donc, c'est les apatistes du Chiapas, les insurgés du Rojava, la tendance la plus radicale des mouvements des Gilets jaunes en France, s'en inspire aujourd'hui unanimement en dépit d'une grande diversité de conditions historiques, politiques et géographiques. Donc, ça, mai 21, c'est pas mal. Et puis, un petit dernier pour la route, voilà. Les élections ont toujours été les arènes où la jactance des élus sollicitait la sottise des électeurs persuadés d'être représentants par eux. Il y en a d'autres. Hein,
voilà, il y en a d'autres, mais voilà. Donc c'est à lire. Et puis c'est parfois on peut penser que ces livres sont très sérieux, mais c'était aussi quelqu'un qui était vraiment dans la vie et qui opposait la vie à la survie. Alors il y a une autre disparition qui est pas qui est pas dans le monde libertaire parce que elle est arrivée plus récemment, mais que je voulais associer puisque c'était quand même quelqu'un d'assez proche, c'est celle de Noël Godin. Donc lui est décédé tout récemment, et Noël Godin et Evan Egem se connaissaient. Alors Noël Godin, c'est pour ceux qui connaissent pas ou peu, c'est celui qu'on appelait l'entarteur, voilà. Le fameux entarteur. Et donc j'ai retrouvé deux, trois choses dans un entretien que Noël Godin avait donné dans le numéro 2 de la revue Brasero, qui est édité par l'Échappé. Et donc à propos de Van Egem, il disait qu'ils ripaillaient souvent ensemble. Et donc Noël Godin disait « Raoul était bel et bien le turlupin rablésien et bakouninesque qu'on espérait ». Vous voyez, il y avait une certaine affinité. Alors, pour quelques mots sur Raoul Godin, l'entarteur, forme assumée et politique de lutte contre l'esprit de sérieux, puisque ce n'était pas que de la blague, le tableau de chasse de ces entartages, toujours réalisé collectivement, même si c'est lui, Noël Godin, qui s'est vu attribuer tout ça et qui a un peu personnalisé, malgré lui, cette affaire, compte quelques noms remarquables et, comment dire, avec une bonne vision à l'avance. Alors, il a commencé par Marguerite Duras, il y a eu Jean-Luc Godard qui lui s'en est réjoui, mais aussi BHL, 8 fois.
BHL, je crois que c'est 10 ou 12 fois.
8 fois.
BHL dort beaucoup mieux depuis quelques temps.
Et tu sais comment il a fait la première fois? Non, parce qu'il faut voir, il travaillait en équipe, hein, c'est sérieux.
Oui,
hein.
Oui.
Il avait coincé BHL qui s'est tiré pour prendre l'ascenseur, mais il y avait un mec à chaque étage, donc il en a pris 2-3 la première fois.
Donc ça, c'est BHL à ce moment, mais aussi Jean-Pierre Chevènement, dans le genre esprit de sérieux, Bill Gates, Nicolas Sarkozy, Patrick Bruel, j'en passe donc. Alors, en y réfléchissant, j'avais envie de faire reproche à Noël Godin de ne pas s'être offert un pape. Parce que quand même, oui. Voilà, il va bientôt venir, là, il y avait une occasion.
Ah oui, oui, oui.
Même
oui.
Si quelques religieux ont quand même eu droit au gâteau à la crème, mais ça l'a... En fait, le pape, ça a failli arriver. Est quand même assez extraordinaire. Et en fait, il raconte dans cette même interview qu'un ami galeriste l'informe au téléphone que le pape va être en visite dans un petit village italien le lendemain. Mais alors, malheureusement, le délai est trop... Et qu'il n'y aura pas de surveillance, il n'y aura rien. Donc en fait, ça aurait vraiment pu avoir lieu, ce qui était quand même quelque chose. Mais le délai est trop court, et alors ils ne peuvent pas organiser une équipe, il aurait fallu prendre l'avion, enfin voilà, il fallait être là le lendemain, à Bruxelles, l'Italie, c'était compliqué. Alors, chers auditeurs et auditrices, alors que Léon de Chicago est annoncé pour une tournée française dans les derniers jours de ce mois de septembre, eh bien c'est peut-être le moment de faire vivre l'internationale pâtissière et de rendre le plus bel hommage qui soit au gloupier. Gloup, gloup, gloup.
Oui, j'avais juste une petite phrase. C'était quand est-ce qu'il a la première tarte? Et en fait, c'était pour son prof. Il s'est entraîné quand il était élève.
Ah, ça, il le dit pas dans le... D'accord.
Pareil, c'est là... Enfin, moi, j'avais discuté avec lui. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne sais pas si c'est vrai.
Donc, c'était cas, avant... Dit, mets,
j'avais ça en moi.
Avant les entartages.
Un problème avec l'autorité, visiblement. Ah,
L'éducation, c'est toujours marquant.
Voilà.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète,
au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands et de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies.
La vie s'écoule, un texte, comme l'a dit Serge tout à l'heure, écrit par Raoul Van Eghem et qui ici est interprété par Serge Gerroyo. Vous écoutez Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc nous continuons l'exploration et la présentation de ce Monde Libertaire numéro de septembre, dont le dossier, on va en parler un petit peu plus tard, est consacré à l'Espagne 36. Alors vous êtes habitués, il y a tout un tas de rubriques qui reviennent régulièrement, et parmi celles-là, il y a les terrains de lutte. Donc, qui font le récit de luttes passées ou présentes. Alors, il y a un excellent article de Pierre du groupe La Sociale de Rennes qui revient sur un article qui s'appelle Les Caddies de la colère. Et donc, c'est une lutte plutôt oubliée de l'histoire sociale rennaise. C'est à partir d'un livre de l'historien Hugo Melchior, Les Caddies de la colère. Donc, on est dans les années 70, une période où la CFDT, on l'a un peu expliqué, ou plutôt certains membres de la CFDT, on en connaît, défendent l'autogestion, encouragent la démocratie directe et développent une certaine pratique syndicale offensive. Et donc là, ça se passe dans un hypermarché Mammouth. Ça existait, Mammouth écrase les prix, vous vous souvenez sans doute. Et donc là, il y avait évidemment, comme souvent dans ce genre d'activité, prédominance du personnel féminin, salaire médiocre, horaire contraignant. Et donc, les salariés vont se révolter. Et ce qu'ils vont organiser, c'est le blocus de ce supermarché Mammouth, qui est installé dans une galerie marchande, avec les caddies. Donc en fait, ils vont faire une espèce de chaîne de caddies qui vont empêcher les clients de rentrer. Et tout ça va quand même durer 3 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va devenir un peu une sorte de rond-point, puisque le personnel va discuter plus largement avec tous les membres du personnel, mais aussi avec les clients, et des solidarités vont se créer. Donc on vous invite à lire ça. Je vous livre la conclusion de Pierre. La grève de Mammouth Alma apporte encore aujourd'hui des pistes de réflexion précieuses. 50 ans plus tard, le barrage de caddies dressé dans la galerie commerciale d'Alma continue de rappeler qu'une poignée de salariés déterminés peut parfois enrayer la mécanique d'un système bien plus vaste qu'eux, et que les luttes les plus fécondes sont souvent celles qui parviennent à transformer une colère particulière en cause commune. Autre grève plus toute bien plus récente, celle-là, puisqu'il s'agit des on retourne un petit peu en Belgique, des luttes ferroviaires belges de 2025, puisque le titre, l'article nous dit que c'était la plus importante grève ferroviaire de la décennie. Et c'est Tim de la CNT qui nous fait le récit de cette mobilisation autonome des travailleurs eux-mêmes, en dehors de toute bureaucratie syndicale ou institution de cogestion. Et vous verrez en lisant l'article comment, justement, un peu les chefs dans les syndicats ont un peu abdiqué quand on leur a fait des concessions. Voilà. On a commencé à s'occuper d'eux. Ils sont beaucoup plus tendres dans ces cas-là. Donc, il vaut mieux rester par la base. Ensuite, toujours dans la rubrique terrain de lutte, Ouzo du groupe Y nous fait la visite du centre Ascasso d'Ouroti, qui fête ses 30 ans. Et donc l'Athénée libertaire montpelliéraine, qui se trouve 6 rue René à Montpellier, à 2 pas de la gare. Il nous fait la visite donc, d'un lieu qui s'est construit autour du don des archives et des livres de la bibliothèque d'Abel Paz, figure importante, sénétiste et jeune témoin de la révolution d'Espagne à Barcelone, ce qui est tout à fait d'actualité dans ce numéro. Toujours à ce même, dans cette même rubrique, sur l'île d'Oléron, où il y a quelques résistants là-bas, on en connaît quelques-uns. Donc depuis l'île d'Oléron, Jean-Luc et Maryse nous font le récit de la journée organisée sur l'île le 19 juillet. Il s'agissait tout à la fois de rappeler la date du début de la Révolution espagnole de 1936, puisque donc effectivement ça commence le 19 juillet, et de rendre hommage au compagnon Jean-Marc Reynaud, dont c'était aussi l'anniversaire, ça ne s'invente pas. Il s'agissait de rendre un hommage symbolique, je cite là, à ceux qui ont su dire non au franquisme et qui ont initié la révolution sociale en construisant une société égalitaire, solidaire, anti-autoritaire et autogestionnaire. Il y a une nouvelle rubrique dans Le Monde Libertaire, c'est la rubrique Espéranto. Et donc, ça sera une rubrique mensuelle. C'est une demande, c'est un mandat du dernier congrès de la Fédération anarchiste. Et donc, voilà, c'est mis en œuvre par les copains du Monde Libertaire. C'est le BAB qui nous rend compte du 99e congrès de la SAT. Alors, vous savez ce que ça veut dire, la SAT ?
Satan.
Satan. Oui, c'est ça, mais ça veut dire Senesiaca Associo Tout Monda. Je voulais vérifier s'il y avait des espérantistes à cette table.
C'est un espéranto, tu nous l'as dit. Hein.
Absolument, monsieur. Et donc, ça veut dire Association Mondiale à National.
À National.
Ah ben voilà. Voilà. Disons que c'est la partie qui est assez proche et libertaire.
Je crois
qu'il n'y a pas que des libertaires. Voilà.
C'est Senesieka Associo Tout Monda. On vérifiera les copies.
Tu ramasses les copies à la fin.
Échange avec des espérantistes du monde entier, japonais, brésiliens, australiens, ce qui est quand même assez fantastique. Et j'en profite pour vous rappeler que Radio Espéranto, c'est tous les vendredis sur Radio Libertaire de 17h30 à
19h30. Depuis pratiquement les débuts de Radio Libertaire.
Absolument. Jusqu'à 19h. L'Antifa est aussi une rubrique régulière du Monde Libertaire, et en accord d'ailleurs avec la campagne fédérale reconduite cette année encore. Flagrant déni. Elle nous en parle aussi de l'adoption par le Parlement de la loi dite « permis de tuer ». Je cite une partie ou le chapeau de cet article que je vous invite à lire. « Malgré une énorme mobilisation citoyenne et une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale qui a récolté plus de 630 000 signatures, les députés macronistes, LR et d'extrême droite, tous unis, ils vont finir par y prendre goût, ont voté la présomption de légitime défense pour les policiers le 7 juillet dernier. » Cette proposition de loi du député Éric Paugé, LR, les Républicains, donc totalement soutenue par le gouvernement, devrait poursuivre le chemin parlementaire et être discutée au Sénat à l'automne. En mai dernier, les défenseurs des droits humains alertaient dans un article de flagrant déni sur les effets catastrophiques d'un blanc-seing donné aux forces de l'ordre. Donc l'article reprend les origines de cette loi et interroge de nombreux acteurs du monde judiciaire qui concluent qu'avec ce texte, je cite, « on consacre l'impunité des services de police ». Impunité largement présente dans les
d'ailleurs, c'est clair, s'il se passe quelque chose, ce sera la personne qui a subi, enfin, sauf si elle est morte, ça arrive, d'amener les preuves. Alors, quand on sait qu'en face, on a quelqu'un d'assermenté, donc il dit forcément la vérité. Donc, ça veut dire que ça enterre pratiquement tout.
Voilà, déjà,
si ça passe comme ça.
Dans l'état actuel, c'est difficile de mettre en cause un policier. Mais là, effectivement, ça ne sera même plus possible d'enquêter. Ça consacre la soumission du pouvoir politique à sa police. Et un petit peu de musique maintenant. Merci, Monique.
caméras partout et de la biométrie dans l'air.
T'exagères.
Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu.
Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
Ah, quand même.
Eh, hey, monsieur l'agent.
Mademoiselle.
On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier se souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique.
En plus, les comédiennes sont belles.
Eh, hey, y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La
faire arrêter en entonnant « Casse-toi, pauvre con !» Et ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Chasseur d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour.
C'est pas d'éthique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Les lycéens qu'ils ont matraqués.
Et Joachim qui perd un œil.
Oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
La situation difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson. On est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter.
C'était la compagnie Jolimôme, démocratie policière. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc, dans ce Monde Libertaire de septembre, parmi les rubriques récurrentes que vous retrouvez dans le Monde Libertaire, il y a les rubriques syndicalisme et antimilitarisme. Eh bien, elles sont bien là. Dans un premier texte de la question de la neutralité politique, vous vous souvenez peut-être que le Monde Libertaire, au mois d'avril de cette même année, a publié un dossier qui s'appelait « Syndicalisme, la lutte des crasses ». Donc il y avait évidemment un dossier syndicalisme dans ce numéro, et sa lecture a suscité des réactions et l'envie de compléter le dossier. Et donc c'est le texte que nous proposent les compagnons de la CNT-AIT, pardon, et qu'il conclut par ces mots. Je cite, « Plus de 100 ans après la création de l'AIT, tous les faits historiques n'ont fait que confirmer cette intime conviction que pour un anarchiste, le syndicat doit être antipolitique et non apolitique.
Donc, je vous invite à lire ce texte. Serge,
juste un mot. Enfin, voilà. C'est un texte intéressant parce qu'il retrace historiquement comment les deux courants opposés, issus de Marx ou de Bakounine d'un côté, dont je ne développe pas, je pense que beaucoup d'auditeurs voient ce que je veux dire, s'est traduit dans le syndicalisme. Et le problème est autour de la charte d'Amiens, parce que maintenant, beaucoup de gens se réclament de la charte d'Amiens, qui est baromptie l'idéal. Bon, en fait, la charte d'Amiens, elle est là pour montrer, enfin, c'est 1906 pour situer, un compromis entre des anarchistes et des marxistes qui voyaient que les anarchistes se développaient, donc il fallait un peu reprendre leurs idées. On fait pour virer les marxistes purs et durs, comme Jules Guay de Parti Ouvrier. Voilà. Donc, j'ai juste un texte à lire. Après, on a bien vu ce que ça a donné, notamment avec l'arrivée des bolcheviks, tout ça. Je détaille pas, c'est dans l'article, je vous renvoie à ça. Un texte qui est en fait suite à tout ce qui s'était passé, 17, etc., l'intervention bolchevique dans les syndicats avec tout ce que ça a impliqué. Il s'est créé une AIT anarcho-syndicaliste à Berlin en 1922. Donc je cite, c'est un peu qui tire les leçons de ce qui s'était passé. Le processus révolutionnaire des années 1914-1921 avait mis en lumière la nécessité de substituer à la neutralité politique du syndicalisme, qui était la charte d'Amiens, donc, une lutte active contre les partis politiques, dont le but commun est de conquérir le pouvoir d'État et non pas de le détruire. Si donc le syndicalisme veut l'abolition de l'État, il doit aussi vouloir la disparition des partis politiques et des parlementaristes, c'est clair. Et je rajouterai une seule chose. En 1926, sur le plan purement syndical en France, là, c'est créé la CGTSR sur des bases, on va dire, anarcho-syndicaliste. Et donc, à une charte qui s'appelle la Charte de Lyon, qui dit aussi clairement les choses. Voilà. Mais c'est pas dans l'article, ça. Mais vous regardez sur Internet, vous faites Charte de Lyon. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'Alliance syndicaliste, on l'avait diffusé. Pour nous, c'est vraiment une référence de l'anarcho-syndicalisme.
Toujours important de...
J'ai terminé là-dessus, mais je renvoie quand même à la lecture de l'article complet.
De rappeler, via cet article, on trouve les fondements un peu de l'anarcho-syndicalisme. Toujours ce chapitre syndicalisme et répression syndicale, un article assez passionnant et assez glaçant. David Perdry donc nous fait le récit glaçant d'un projet d'assassinat d'un militant syndical CGT commandité par une chef d'entreprise d'une usine de plasturgie dans l'Ain. C'est maintenant que ça se passe. Hein. C'est pas alors on dirait un roman noir du Meckert ou des choses comme ça. C'est juste la guerre des classes orchestrée par le patronat avec l'aide de quelques barbouzes. Je vous invite à lire ça. Ouais, ça fait peur un peu. Antimilitarisme, être anarchiste face à la perspective de guerre, et c'est Élisée Personne, je ne sais pas qui c'est, facile, mais bon, voilà. Il nous demande un peu quelle attitude adopter face à des pouvoirs de plus en plus guerriers. Je le cite, la perspective anarchiste, le fait même de proclamer que l'aliénation peut prendre fin, que l'utopie de la paix est possible, implique une réflexion sur la responsabilité comme axe politique. L'anarchie, c'est l'utopie au sens le plus positif du terme, la liberté, la paix et d'autres valeurs comme la justice, la solidarité, etc. Et y compris la responsabilité. À Lyon, un article intitulé « Paix aux chaumières, guerre au palais », palais au pluriel, et donc il nous fait un compte-rendu sur la liaison commune de Lyon, il nous fait un compte-rendu de la soirée antimilitariste qui était organisée à la librairie La Griffe en juin dernier. Justum nous fait un coup de gueule. Voilà, il nous dit après Jupiter, voici Mars. Et de nous rappeler la chanson de Vian, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Et il nous cite quand même les propos de notre bon président en fin de piste le 14 juillet dernier. Il nous a dit la France est prête à défendre la liberté et le droit au prix du sang s'il le faut. Voilà, ça c'était dans son discours du 14 juillet.
Quoi. Il n'a pas précisé.
Non, mais il peut donner l'exemple. Hein.
En général, il ne donne pas l'exemple comme ça. C'est parole de vampire, point d'interrogation. Je dis. Voilà. D'un texte sur la paix, lié à la paix, c'est un long texte de N. Hadar, qu'il déploie dans une série en 6 épisodes. Là, c'est la 4e partie. Il réfléchit donc lui aussi à l'idée de la paix et au pouvoir de dire non. Et donc il nous dit comprendre les blocages, ouvrir les possibles. Donc là, je vous renvoie à cet article. Alors, rubrique passeport, vraiment quelque chose qui va t'intéresser, je trouve tout de même assez désolant. Vous allez apprendre comment la CNT a été espagnole, traînée en justice par sa consoeur Edmi, la CNT-CIT, a été contrainte de changer de nom. Elle s'appellera désormais la CAAIT pour Confédération Anarcosyndicalista, Association Internationale de los Trabajadores. Donc c'est assez désolant quand même que des CNT
se
foutent sur la gueule par voie de tribunaux.
Par les voies juridiques normales. Et arrive à obtenir une décision de justice qui donc interdit à la CNT d'utiliser son sigle, ses drapeaux, c'est son emblème... Hercule tenant la gueule du lion. Enfin, c'est assez lamentable.
Ah, c'est minable, hein, c'est vraiment...
Il y avait déjà eu un article, d'ailleurs, là-dessus. Par Nicolas. Traduit par Nicolas.
Et puis, quelques infos, toujours dans la rubrique passeport, l'étranger, infos depuis Cuba. Donc, c'est notre compagnon Daniel Pinos et le site Polémica Cubana. Qui nous donne quelques infos, une petite citation. Entre le blocus financier imposé par Washington et l'obstination dogmatique d'un régime autoritaire au bord de l'asphyxie, la population cubaine subit une crise humanitaire sans précédent. Enquête sur les mécanismes d'une paupérisation systémique. Et c'est vrai que c'est pas chouette, Cuba. On ne sait pas comment ça va aller mieux un jour. Mais...
Donc, tu as cité Pauline Pacubana. Je renvoie les auditeurs pour en savoir plus, parce qu'il y a des articles régulièrement de Daniel, mais pas uniquement, qui a des contacts directement à Cuba.
Voilà une petite pause, et puis on revient pour vous parler justement du dossier consacré à l'Espagne 36.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Le blues parlé du syndicat, c'était François Béranger, dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et donc nous en venons à ce dossier spécial Espagne 36, dans lequel vous trouverez 9 articles qui reviennent sur l'histoire elle-même, qui précisent certains points d'histoire, et d'autres qui cherchent un peu à comment faire vivre cette histoire, comment la transmettre. Donc voilà, on va peut-être en venir très vite. Je prévoyais de donner le sommaire, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier article justement qui s'appelle « Quand l'anarchie était à l'ordre du jour ». Et c'est Ramon Pinault qui est dans le studio, c'est lui qui l'a écrit cet article. Ça revient en gros sur les 3 journées 19, 20 et 21 juillet et ce qui les précède. Et comment le soulèvement populaire de ces 3 journées, qui repousse donc les militaires putschistes, va initier un peu tout ce qu'on appelle la révolution de 1936, les trois glorieuses.
Trois glorieuses.
C'est un peu ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir assez en arrière et de s'apercevoir qu'il n'y a jamais juste un moment, mais que... Il y a des préparatifs, il y a des choses annonciatrices de tout ça.
Eh bien oui, déjà, on peut remonter à l'exil du roi Alphonse XIII et donc à la proclamation de la République.
En 31.
Qui va soulever d'énormes espoirs. C'est la foule est dans les rues, c'est la joie. Ça va pas durer très longtemps parce que les forces de gauche qui ont promet toujours beaucoup.
Bah oui, les élections.
Donc notamment un problème de résoudre le problème agraire. Ça va tarder, ça va pas se faire.
La situation économique est plutôt très difficile quand même.
La situation économique est très difficile, notamment dans les campagnes. Par contre, il y a 2 régions industrialisées, c'est le Pays Basque et la Catalogne, qui ont bénéficié, si on peut dire, de la Première Guerre mondiale, puisque l'Espagne n'était pas parmi les belligérants, et donc a fourni de tout, des armes, du matériel à tous les autres pays. Donc, ça avait développé toute une classe ouvrière, et notamment les paysans allaient dans les grandes villes pour trouver du travail. Donc, ça a créé un prolétariat, et un prolétariat très contestataire, très révolutionnaire, et les effectifs de la CNT ont explosé. En 31, c'est la République. Il y a quand même à nouveau des grèves, des affrontements très, très violents avec les forces de l'ordre. Et tellement violent que en 33, il y a de nouvelles élections. Et là, c'est la droite qui gagne. C'est la droite parce que la gauche, c'est discrédité au début. Et il faudra attendre 36, février 36, où là, il y aura un rassemblement des forces de gauche qui vont faire un Frente Popular, un front populaire. Et pour ces élections-là, pour une fois, les libertaires, la CNT, ne vont pas prôner
Ils vont pas faire une campagne d'abstention, parce qu'une campagne d'abstention, quand ils faisaient à l'époque, ça avait du poids.
Hein. Ça avait du poids. Mais là, il y a un enjeu. Il y a une espèce de deal avec... parce que ça discute dans les couloirs, avec les forces de gauche. Si la gauche passe, elle s'engage à libérer tous les prisonniers politiques.
Il y en avait 30 000.
Il y en avait 30 000.
Suite aux Asturies et tout ça.
Suite à la révolte.
La répression était importante, donc il y avait beaucoup de prisonniers.
Suite à la révolte.
C'était un enjeu important. Hein.
C'était important.
Et non, mais c'est bien ce que tu précises ça, parce que moi, j'ai déjà entendu dire, oui, pour 36, il y a eu la gauche, parce que la CNT appelait à voter, pour ce qui n'est pas vrai. Ils ont pas fait. C'est exactement ce que tu as dit. Et en plus, il y avait un échange.
C'était
bien de le rappeler.
Et d'ailleurs, dès les résultats des élections, habituellement, le fonctionnement normal d'une république, il y a un décret, faut l'écrire, faut attendre. Là, dès le lendemain, il y avait des foules devant les prisons qui,
qui les ont libérés eux-mêmes.
Ils n'ont pas attendu le décret. Ouais. Hein. Tout le monde est sorti. Et donc, on arrive, on est en février 36, mais ces élections qui ont été gagnées par le Front Populaire Espagnol, gagnées de peu.
Ah oui, très peu, hein. Quelques pourcents.
De très, très peu. Mais avec le jeu des représentations au Parlement, tout ça, il y avait une grosse différence entre la gauche et la droite. La gauche était avantagée. Et donc, tout de suite, d'ailleurs, on le voit dans les mémoires de Garcia Oliver, qui était un peu tacticien, qui dit, bon, c'est pas compliqué, ils avaient prévu avant, si la droite gagne, il y aura des révoltes des travailleurs. Si la gauche gagne, il y aura une révolte des militaires. Et tout le monde s'y attendait. Et beaucoup de militants, notamment militants les plus en vue depuis certains temps, ne dormaient plus chez eux. Ouais. Ça tournait parce que c'est...
Ils avaient repéré
les dépôts d'armes. Ils en avaient déjà pris. Ouais. Ils étaient arrivés à planquer dans un terrain de foot un camion avec une plateforme sur laquelle il y avait une mitrailleuse. Qui a servi le 19 juillet. Et donc, ils s'attendent.
Ils s'y attendaient.
Tout le monde s'y attend. Et le coup d'État commence le 18 juillet. Le gouvernement ne prend pas la mesure du truc. Déjà, le gouvernement refusait d'armer les travailleurs.
Ah bah oui,
parce que ils avaient peur que des fois, dans la foulée, ces armes se retournent contre eux. Ils avaient raison. Et quand on annonce au Premier ministre qu'il y a eu un soulèvement militaire, alors, se soulever, en espagnol, c'est levantarse. C'est un jeu de mots, ça peut vouloir dire se lever.
Oui.
Ou se soulever. Et quand on lui dit ça, il dit « Ah bon, ils se sont soulevés, ils se sont levés. Eh ben moi, je vais me coucher. » le lendemain, il a vu...
Genre de déclaration, tu dis dans l'article, je ne vais pas inventer. La situation est sous contrôle.
Alors que les travailleurs allaient devant les mairies réclamer des armes qu'on ne leur donnait pas, bon, ils s'en étaient procurés. Et dès le 19 juillet, partout en Catalogne, mais à Barcelone, avec la CNT, les comités de défense de la CNT, qui s'attendent. Toutes les sirènes de toutes les usines se mettent à. C'est le signal. On arrête le travail, on passe dans la rue, se procurer des armes, même à main nue, même avec un couteau de cuisine. Ils commencent à essayer d'encercler les casernes. Et. Bizarrement, pour une fois, c'est les travailleurs qui obtiennent la victoire. Il va leur falloir 3 jours pour vaincre les militaires. Contrairement aux insurrections précédentes, où il y avait toutes les forces armées groupées, l'armée, la police, la garde civile, il y a une partie des gardes civiles. Les anarchistes démarrent à 5 heures du matin. Les gardes civils vont attendre 10 heures du matin, voir un peu dans quel sens ça tourne.
Oui, bah oui.
Et on va voir, on va voir sur certaines barricades les anarchistes à côté des gardes d'assaut faire un coup de feu, alors que une semaine avant les gardes d'assaut foutaient les anarchistes en prison. Ouais. Enfin, bon, les anarchistes vont en profiter et en 3 jours ils vont vaincre les militaires et l'État catalan, la généralité, l'État s'effondre. C'est hallucinant. Tout se casse la figure. Il y a plus rien. Et la force d'un syndicat, justement, d'un syndicat révolutionnaire, de la CNT, ça va être de remettre en route l'économie du pays en une semaine. C'est pas la révolution russe. Non, en une semaine, ils prennent tout, ils collectivisent à fond la caisse, tout ce qui peut être collectivisé. Dans les campagnes, c'est les terres qui sont collectivisées. Dans les villes, dans les régions industrialisées, c'est les usines qui sont, les entreprises qui sont collectivisées, à tel point que le gouvernement de Catalogne n'arrive pas à suivre. Il ponde des décrets pour légiférer.
Oui. Pour légaliser.
Pour légaliser
les mesures qui sont prises.
Qui sont déjà complètement.
Tu cites quand même une phrase de Compagnie, qui était quand même le président de la généralité.
Il va les réunir.
Seuls les anarcho-syndicalistes de Barcelone ont vaincu le soldat militaire. Bon, ok. Maintenant qu'ils étaient maîtres de la ville, ils pouvaient choisir d'accepter sa collaboration à lui ou de le renvoyer chez lui. Autrement dit, c'était un pantin. C'est lui-même qui le dit.
Il le dit, oui, il y a toute une autre...
Oui, j'ai vu ça complet.
Où il dit, si vous pensez que je peux servir comme une espèce de paravent par rapport aux démocraties occidentales pour qu'ils ne soient pas effrayés d'une révolution, je suis à votre service. Bon, c'était un peu tordu. On verra par la suite qu'il va petit à petit reprendre du poil de la bête. Et ce qu'ils vont créer, c'est un comité central des milices antifascistes.
C'est CMA.
CMA.
Pour ceux qui aiment les initiales.
Dans laquelle les anarchistes sont largement majoritaires. Mais je l'explique dans la suite de l'article, ils ne veulent pas être un parti unique. Et donc, il y a dans ce comité des milices, il y a également quelques socialistes, quelques communistes. Faut dire que en Catalogne, le 19 juillet, il n'y a pas de parti communiste. Ils n'existent pas encore. Ils vont se créer 10 jours après.
Moi, je crois qu'ils étaient 3 000 au niveau de l'Espagne avant le développement.
Et donc il y a ce comité des milices. Mais petit à petit, l'État reprend du poil de la bête. Et deux mois et demi après, ce comité va se dissoudre. Et là, on passe à l'étape suivante, c'est le front antifasciste. Et là, ça va se passer à peu près bien au tout début. Mais quelques mois plus tard, en mai 37, ça va se passer très 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 mal, avec l'aide entre guillemets de l'Union soviétique, qui, en échange de quelques armes, a distribué aux bataillons sous commandement communiste, même s'il n'y a pas trop de communistes dedans, mais le commandement c'est aux communistes. Et donc l'influence des anarchistes va aller en déclinant. Mais c'est facile de le dire 90 ans après, il aurait fallu que, fallait faire ci, fallait faire ça, mais c'était la CNT, les anarchistes se sont posé la question, après les trois journées où ils sortent vainqueurs du truc, il va y avoir un plénum.
En juillet, je crois.
Et il va y avoir plusieurs possibilités exposées. Alors, la première, c'est celle de García Oliver, qui lui dit, à une formule, c'est en espagnol, ir a por el todo, c'est-à-dire prendre tout. Prendre tout.
On va au bout, quoi. Ouais.
Et il dira lui-même ensuite que ça serait une prendre tout, ça serait une dictature anarchiste. Et donc ça, il y a juste une délégation qui est d'accord avec lui. Il va être minoritaire, ça va pas être tenu. Durruti, lui, dit oui, on pourrait faire ça en Catalogne, on pourrait faire ça, mais c'est un peu prématuré, et de toute façon, il y a une priorité. Il faut reprendre Saragosse, oui, oui. qui était un fief anarchiste.
Absolument.
Il faut reprendre Saragosse, qui a été pris par les Français. Ce qui ne se fera jamais. Federica Montseny, elle, a une vision plus théorique. Elle dit un comportement de parti unique de la part de la CNTFI, ça serait une atteinte à la pureté de l'idéal anarchiste. Elle, c'est l'idéal anarchiste. Et puis, il y a la remarque de Diego Abad de Santillán, qui, lui, est pragmatique. Il dit, mais si on faisait un parti unique, si on prenait tout le pouvoir, ça risquerait d'effrayer les démocraties occidentales qui ont des intérêts. Il y avait des multinationales à l'époque dans l'Espagne et qui ne nous aidera pas forcément.
Bon. Oui, et puis en plus, avoir une révolution à la frontière d'à côté, c'est jamais bon, voilà. C'est un mauvais exemple.
La suite des événements va montrer que les démocraties en question vont pas aider
quoi que ce soit.
Donc voilà.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu montres bien qu'au travers de ces trois journées, c'était un peu le moment où tout était possible.
Tout était possible.
Aussi parce que le vide institutionnel permettait de le remplir pas d'autre chose. Et puis, plusieurs options étaient sur la table et peut-être qu'on aurait pu aller dans d'autres directions.
Si tu veux, il y a quand même... Moi, j'ai discuté avec des gens, y compris qui, à l'époque, avaient des réticences. La première réticence, c'était, bon, on n'a pratiquement pas de soutien sur le plan militaire, ou très peu, très peu, si tu veux, venant de l'extérieur. Et d'autre part, la CNT était très forte dans 3-4 régions, mais beaucoup moins dans d'autres.
Voilà.
Alors, je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais c'était ces arguments-là qui ont... Et il y a même des compagnons qui, dès le départ... on dit, mais de toute façon, c'est foutu, parce que le plan militaire, on a en face Mussolini, machin. Il y avait aussi ça qui a joué. C'est... Alors, je ne dis pas, si j'avais été, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. J'aurais parlé espagnol.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que prendre tout le pouvoir, ils pouvaient le faire en Catalogne.
Oui,
en Catalogne.
Ah, en Catalogne, c'est évident.
Où ils étaient, la CNT était hégémonique.
Ils étaient
majoritaires.
Ils faire semblant d'ouverture à d'autres. Ouais. Hein, pas besoin.
Mais dans le reste de l'Espagne, c'était différent. Hein, dans la région centrale, en Castille, c'était plus l'UGT. Ceci dit, à cette époque-là, en juillet 36, les deux forces les plus importantes en Espagne, ce sont les deux organisations syndicales, l'UGT socialiste qui a 1 400 000 adhérents et la CNT qui a 1 500 000 adhérents à ce moment-là. Mais ils n'étaient pas hégémoniques dans toute l'Espagne. En Catalogne, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais pas ailleurs. Ceci dit, en Aragon, ils ont mis tout de suite en œuvre le communisme libertaire.
Dans les campagnes.
Il y avait on pourrait appeler ça, c'était quand même un gouvernement, c'était le Conseil d'Aragon, un gouvernement où il n'y avait pas que des anarchistes, mais très majoritairement des anarchistes. C'était tellement flagrant que ces collectivisations emmerdaient le gouvernement central qui n'a rien trouvé mieux à faire que d'envoyer au mois d'août 37 les colonnes sous commandement communiste, détruire ces collectivités, foutre en tôle tous les anarchs qui leur tombaient sous la main. Ceci dit, dès qu'ils sont repartis au front, les paysans ont refait des collectivisations.
Dans l'esprit, je crois, mais pareil, c'est dans ton article, hein, le Parti communiste espagnol qui s'était développé sur le base de défense de la petite propriété, de la religion, etc., enfin, qui avait rassemblé un peu les classes moyennes effrayées, quoi. Bon, une citation dans la Pravda de décembre 36, enfin, je pense qu'il est en article. L'élimination des trotskistes et des anarcho-syndicalistes a déjà commencé en Catalogne et elle est réalisée avec les mêmes énergies qu'en Union soviétique. Donc, ça, c'était en décembre 36. Donc, il y avait aussi ça à l'intérieur du Front républicain. Il y avait ça aussi.
Il y avait ça. Et donc en mai 37, alors là, ils vont mettre en application et on va dire malheureusement certains éminents membres de la CNT vont calmer les anarchistes qui voulaient
parce qu'il
privilégiait le front l'antifasciste
dans la période là, c'est ça.
Et c'est quand même là où il va y avoir à partir de ce moment-là un déclin de l'emprise anarchiste parce qu'on commence à les éliminer, y compris physiquement.
Alors je vous arrête parce qu'on va pas refaire toute la guerre d'Espagne.
Moi je la refais tous les matins, tu sais.
Et je voulais quand même donner un petit peu une idée des autres articles qu'on va retrouver dans ce texte. Enfin, j'en profite, il arrive pas tout de suite après, mais il y a un article de Pierre Sommermeyer qui est intéressant parce qu'il explique qu'à un moment on retrouve il dit c'est quand même un peu bizarre parce qu'on retrouve des flics anarchistes, des commissaires, des présidents de ceci, tout ça est peut-être un petit peu contradictoire. Et puis finalement, on fait la guerre, on est anarchiste, mais on fait la guerre, ce qui devrait peut-être pas se passer. Voilà, c'est une réflexion aussi qui est intéressante.
Si on ne fait pas la guerre, on fait quoi?
Ah non, mais je
les fascistes,
la réflexion qui est proposée par Pierre Sommermeyer.
Non, mais je te donne ma réflexion
là-dessus. Mais effectivement, là, ça mérite débat.
Bah, si, on peut fuir à l'étranger.
Il y a deux textes qui. Un d'Hélène Hernandez, qui présente l'émission Femme Libre sur Radio Libertaire, et puis un de Enadar qui reviennent tous les deux sur ce qu'ont été les Mujeres Libres. Donc tout l'apport féministe, toutes les conquêtes et les réflexions qui ont été portées par les femmes pendant cette révolution, qui sont absolument essentielles. Donc j'avais juste noté une petite citation que je trouvais bien, puisque oui, ça c'est Lucia Sanchez Sarnil, une des fondatrices de Mujeres Libres, qui disait « Le féminisme sans révolution sociale est une escroquerie, la révolution sans féminisme est une demi-révolution ». Et donc c'est sans doute aussi parce que les femmes espagnoles se sont autant mobilisées que cette révolution n'a peut-être vraiment été une. Peut-être dire que voilà, les Mujeres Libres, ça parlait aussi de sexualité, contraception, amour libre, et tout ça a été ouvert à un très large public. Qu'est-ce qu'on avait ? Il y avait le Cercle Libertaire Jean Barruet, justement, nos compagnons de Bordeaux, qui nous présentaient un peu toutes leurs activités pour saluer ces 90 ans. Ça a commencé au mois de juin et ça continue quasiment jusqu'au mois de décembre. Daniel Pinos, lui, il revenait sur 4 jours de commémoration pour faire vivre la mémoire de la colonne d'Urruti face aux attaques de l'extrême droite. Donc ça se passait dans un petit village qui s'appelle Burjalos, une petite commune de la province d'Aragon où donc la colonne d'Urruti
ont apposé une plaque à la mémoire de d'Urruti pour rappeler
le lieu où ils étaient cantonnés, quoi.
Effectivement, ça. Dans l'article de Daniel Pinos, il a raison, ça provoque des crises d'urticaire dans l'extrême droite actuelle espagnole.
Chez Vox,
effectivement. On se demande pourquoi.
Vox
a voulu
faire une mobilisation en parlant de sabbat anarchiste, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce que nous raconte Daniel, c'est très intéressant pour comprendre un peu comment la mémoire aussi se transmet, comment on la fait vivre, et notamment par des jeunes gens qui ont beaucoup contribué à ça. Il y a un article de Bernard Daubenas qui rappelle un événement survenu en France quand à l'époque des lois de travail, la police a investi... un local de la CNT, et il met ça en parallèle avec le souvenir des assauts de 1937 quand la police affronta la CNT pour la prise du central téléphonique de Barcelone. Et puis il y avait quelque chose auquel je voulais revenir un petit peu, même si le temps s'enfuit, comme disait Van Eugem.
Ça me dit quelque chose.
qui est un musée virtuel de la guerre civile espagnole, où comment raconter le passé tel que les gens l'ont vécu. Et donc, c'est une initiative qui vient de deux universitaires canadiens qui se sont associés donc avec des universitaires espagnols et d'un peu partout. Et le texte revient sur le constat qui a conduit à la création de ce musée virtuel et à la démarche qui a présidé à son élaboration. Donc, le constat, c'est, disent-ils, il existe un déficit d'histoire publique en Espagne, et pas seulement en ce qui concerne la guerre civile, puisqu'il y a des îlots de mémoire, c'est-à-dire que la diffusion de la mémoire serait imparfaite ou partielle. Et donc, il y aurait le besoin d'essayer de faire ça plus largement. Alors, comment ça s'est développé ? Ils sont partis du concept d'histoire difficile, c'est-à-dire sur la difficulté à faire émerger des récits partagés par tous sur certains cas. Donc, c'est un concept états-unien qui vient de l'apartheid qu'il y avait aux États-Unis, et de l'esclavage, et donc sur la difficulté de raconter cette histoire-là. Et donc, c'est une histoire qui ne souhaite pas faire de catégorie entre les victimes, pas de hiérarchisation, et qui va collecter beaucoup de témoignages oraux et favoriser la diversité des expériences. Et donc, c'est un site internet qui a été mis en chantier en 2020, qui a réuni 120 personnes de 17 pays, toutes bénévoles. Et aujourd'hui, on peut assister à ce site qui présente 15 galeries et 700 objets en trois langues, qui a déjà réuni 402 000 visiteurs. Je vous donne l'adresse du site que vous pouvez retrouver évidemment dans le Monde Libertaire, www.vssw.ca/fr/node. Et vous verrez, c'est assez intéressant et très, très instructif. C'est une belle démarche. Donc, pas trop le temps d'élaborer dessus. Le texte de Pierre Sommermeyer, je l'ai un peu cité. Aussi, une évocation des éditions du Coquelicot. Qui elles ont publié, c'est des éditions qui ont été initiées par le groupe Alternative Libertaire de Toulouse il y a pas mal d'années, fin des années 90, et donc qui ont beaucoup publié sur l'Espagne, l'Espagne 36. On arrive à la fin de ce tour du monde libertaire. Donc on a sauté les pauses musicales, mais c'est pas très grave. Il y a encore beaucoup de rubriques que vous retrouverez, des coups de gueule, des recensions, l'annonce des livres apparaître aux éditions du Monde Libertaire, et puis la recension du tout dernier livre de paru aux éditions du Monde Libertaire, Robocratie, de notre compagnon Patrick Albert, qui est un recueil d'articles publié dans l'EML, avec une préface et une postface qui vous interrogent sur notre rapport à ces robots. Que vont-ils changer? Donc nous remercions Ramon, Serge et Monique pour cette émission. J'ai tout ça, je l'ai dit. Un grand bravo donc à l'équipe aussi du Monde Libertaire qui travaille chaque mois d'arrache-pied à la réalisation de ce mensuel. Rédaction, collecte des articles et des illustrations, mise en page, envoi chez l'éditeur, tout ça sans IA, on l'a déjà dit. Merci à tous, nous vous retrouvons pour nous la semaine prochaine, 16h-18h, pour un trou noir consacré à l'eau. Nous recevrons en effet Nicolas Selnick et Fabien Benoît pour leur livre Les Assoiffeurs. Restez à l'écoute de Radio Libertaire.
Et on va se quitter avec juillet 1936, la compagnie Joli Môme. Au revoir.
Juillet 1936, dans les casernes, catalane. La mort bute sur les milices et le peuple compte ses âmes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passent le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades, comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers. Et sans patron, tout refonctionne. On sourit dans les ateliers. Sur la place de l'Amérique, on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador. Des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici à madame c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vivre aussi. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la Confederación.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, on va jouer un petit peu les prolongations avec quelques annonces avant de vous laisser avec de la musique.
Et donc, effectivement, ce n'est plus le Tour du Monde Libertaire, mais un petit peu d'informations, sur, puisque c'est la rentrée, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour Radio Libertaire et puis plus largement. Tout d'abord, pour vous rappeler la suite du programme sur Radio Libertaire, parce que la soirée n'est pas terminée, à 22h30, vous retrouverez l'équipe d'Indésine, la revue.